Les oiseaux se sont arrêtés de vérifier les ombres. À travers les feuilles, la lumière s'écoule comme une source noire. Derrière moi, une abeille boit le temps. Mes mains accrochent la dernière pierre du mur et je me hisse en silence sur le cerisier. Voler une cerise est un rite de la liberté. L'enfant et le voleur sont de la même famille. Manger une cerise, c'est la voler. Regarder un nuage, c'est aussi procéder à sa soustraction. Icare avait omis de voler l'air avant de faire pousser des ailes sur son dos. Il y a toujours une origine à la chute. Le souvenir du premier vol, c'est toujours celui de la cerise initiale qui laisse retentir un bruit de péché comme une explosion dans la bouche. Cette cerise volée dans le cerisier d'un jardin en escaladant un mur interdit un soir de juin a pourtant le goût du bonheur. Tous les enfants sont des voleurs de cerises. Aujourd'hui encore, je ne puis imaginer acheter des cerises à l'étalage d'un marchand et je me surprends toujours à en voler une poignée que je fais tomber rapidement dans mon sac. Les cerises, ça ne s'achète pas, ça se vole. Dans l'attente des imprécations d'un vieillard qui remonte en criant le fusil au poing chargé de sel, l'allée d'un jardin. À chaque juin, dans l'arbre à oiseaux derrière l'église, des cerises lourdes et noires nous attendent. Nous sommes comme des moineaux armés. On ne demande pas la permission et il nous plaît de nous enfuir dans tous les sens en criant vers de nouveaux vols. Nous mangeons les cerises avec une technique spéciale, sans respirer, en gardant dans un coin de la joue une réserve de noyaux pour les bombardements mutuels qui suivent nos festins. Nous organisons des combats à pleine bouche, mais muets, étrangement silencieux, semblables au vol des oiseaux dans le ciel pour que le vieux propriétaire de l'arbre ne nous entende pas. Puis, comme c'est la coutume, chacun sur une branche, nous pissons debout sur les ruches de l'autre côté du mur. Nous détalons ensuite dans la ruelle de toutes nos forces avant que les abeilles n'exercent sur nous un droit de vengeance légitime. Mais ce matin, depuis une heure, je ne vole pas. Je mange les cerises de mon oncle, Tiet Gibraltar, l'oncle de la mère. Maman m'a envoyé chercher des sarments chez lui pour la grillade des escargots. Mon oncle habite dans une décharge, derrière la coopérative. Sa maison est entourée d'une palissade de vieilles planches et de pneus, liées par des fils de fer. Un puits au fond du jardin fournit une eau sableuse et salée que nous filtrons avant de la boire. Oncle Gibraltar est petit et noir. Ses doigts, tordus comme des racines de réglisse, caressent un chien éternel assis entre ses pieds. J'ai toujours vu mon oncle dans son jardin en train de travailler la terre. Oncle Gibraltar vient de très loin, peut-être même du nom qu'il porte. Et ce n'est pas le mari de ma tante, ils sont à la colle depuis la guerre civile. Il est mon oncle par alliance, il ne faut pas le dire qu'il n'est pas marié à ma tante. Dans son jardin, mon oncle a planté 12 arbres en cercle, comme les chiffres d'une horloge et dont les ombres, pour un observateur attentif, sont de véritables aiguilles du temps. Au centre, s'épanouit un figuier majestueux sous lequel il s'abrite du soleil du printemps à l'automne. Assis sur les fauteuils d'une vieille voiture désossée, il regarde depuis son trône son ombre qui tourne et s'allonge vers ses souvenirs jusqu'à les renverser, comme s'il venait de l'avenir. Jamais je n'ai volé un fruit à mon oncle. D'ailleurs, on ne doit voler qu'à l'extérieur de la famille, en dehors d'un cercle d'environ 3 km de diamètre, m'avait conseillé mon père. À l'extérieur de ce cercle, tout était permis, à l'intérieur, rien. C'était la loi de notre paix. Oncle Gibraltar m'avait vu venir de très loin. Quand je fus prêt, à quelques pas de son ombre, je lui dis en guise de salut, « Maman m'a envoyé chercher des sarments pour les escargots. » Il ne me répondit pas, mais il me désigna le cerisier en m'invitant à cueillir les fruits. J'avais avec moi 2 sacs, car je comptais bien en ramener quelques-unes à la maison. Évidemment, je m'empifferais comme une bête, en faisant attention de ne pas avaler une abeille dont j'étais devenu un concurrent sérieux et attentif. Je sentais oncle Gibraltar derrière moi. Il était fier que je mange ses cerises. Enfin, après un moment sans que je le visse approcher au pied de l'arbre, il me dit « Tu ne sais pas ce que tu manges ?» Et je lui répondis « Évidemment que si et que je mangeais des cerises. » « Non, tu ne manges pas des cerises. C'est Guillermo que tu manges. Cet arbre, ce cerisier, s'appelle Guillermo Ganusa. Tu manges Guillermo Ganusa. » Je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi mon oncle donnait des prénoms d'hommes aux arbres, bien que j'en connusse certains au village qui en donnaient aux chiens. Bien sûr, depuis longtemps, j'avais vu que certains arbres avaient à leur base une petite pancarte écrite soigneusement au feu et sur laquelle figurait un nom énigmatique. J'avais cru, comme mon oncle se piquait de botanique, que c'était le nom de chaque arbre en latin ou celui d'un désherbant, que je ne m'étais jamais donné la peine de lire. Cet arbre a pour nom Guillermo Ganus, Navarro. Tu n'as jamais lu l'étiquette ? Tu le bouffes depuis des années et tu ne sais pas son nom ? Chaque arbre est un homme ici. Regarde et lis à haute voix ce qui est écrit. Je déchiffrai l'écriture de mon oncle et je lus, en détachant chaque syllabe, l'inscription à la base de l'arbre. Guillermo Ganusa Navarro. Intrigué, je fis le tour du verger. Sous le pêcher, l'écriteau indiquait simplement « Josep Sabaté Llopart ». Le pommier portait le nom d'Antonio Franquesa Funoy. Le poirier, c'était Simon Gracia Fleringan. Le prunier, Josep López Penedo. Au bas du citronnier, il y avait une roue de bicyclette. Et sur chaque rayon, une lettre en carton. On déchiffrait en petites capitales appliquées F-R-A-N-C-I-S-C-O-S-A-B-A-T-E. Gravé sur un abri pour oiseaux pendu dans l'oranger, flamboyaient les lettres de Francisco Denis Díez. Le châtaignier se nommait Francisco Martinez Marquez. Dans l'abricotier, souriait la photo de Martin Ruiz Montoya, avec la mention spéciale Barcelone. Directement sur l'écorce de l'olivier, mon oncle avait gravé Ramon, Fila, Capdevila et entre parenthèses Caraquemada, et avait écrit en grosse capitale Viva. Sur le platane, une écorce avait poussé sur le nom qui laissait deviner les dernières lettres d'un prénom, Pablo. Mon oncle avait planté un arbre pour chacun de ses compagnons du réseau qui avaient été assassinés entre 1949 et 1960. Et celui-ci, lui dis-je en désignant le noisetier qui n'avait aucune pancarte, celui-ci, c'est moi. Tu graveras mon nom quand je serai parti. Il ne fallait pas dire le vrai nom de mon oncle, c'était un secret. À cause de la police, avait dit mon père. Je ne le dis pas encore aujourd'hui, on ne sait jamais. On l'appelait toujours entre nous le Tiet del Mar ou oncle Gibraltar. Il faisait des confitures avec les fruits de ses arbres qu'il distribuait à l'entrée de l'hiver pour la solidarité et les enfants des prisonniers politiques. On ne le voyait qu'au printemps quand les arbres fleurissaient. Il était content quand je mangeais ses cerises. Pendant longtemps, je ne me suis souvenu que de cela. Puis, après, me sont revenus d'autres moments qui semblaient surgir de l'avenir. C'est peut-être ici que m'a saisi l'idée fantasque d'écrire des paroles sur des branches d'arbres. Ce matin, je pense à l'arbre et au petit de l'arbre, au lait de l'arbre, à la mère de l'arbre. Je récite tous les arbres qui ont perdu leur nom d'homme dans des forêts. Je vois encore mon oncle, oncle Gibraltar, avec des bras chargés de pommes qui n'étaient pas des pommes, mais des têtes d'hommes. Maintenant qu'une lessive de sang bout dans un lavoir à drapeau, maintenant qu'il n'y a plus d'arbres, maintenant que les morts nous tiennent les jambes pour que nous restions debout, maintenant que je suis immobile en regardant des petits passés que je prends parfois pour le présent, maintenant qu'il n'y a plus de drapeau. En m'appliquant, lettre par lettre, je grave sur le noisetier « Tiet del Mar ». Pas son vrai nom, on ne sait jamais. En regardant couler la sève, je m'enfonce dans ses yeux en crachant des noyaux de cerises, comme des souvenirs ou des balles de pistolet. Marguerite, une amie de la famille, dit souvent encore en entrant dans le jardin « Nous avons de vieux pistolets, mais nos balles sont capables de faire des trous tout neufs ».